Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Après l'événement la semaine dernière et cette première émission en public depuis Morges, un autre événement avec trois très bons livres qui sont les incontournables de cette rentrée littéraire. C'est le choix de notre rédaction, ce que vous pouvez aller acheter chez votre libraire indépendant les yeux fermés. Laurent Godet publie un nouveau roman, qui mieux que l'humaniste Laurent Godet pour parler de la folie des hommes. Il décrypte les défaites mais aussi les victoires qui ont façonné le monde, un livre saisissant. Le couple Brigitte Findakli et Lewis Trondheim proposent eux une histoire personnelle, touchante et instructive. Nous irons en Irak grâce à eux avec un roman graphique qui devrait séduire nos libraires. Et puis nous serons avec Gaël Faye. L'artiste publie son premier roman, l'histoire de la vie d'un jeune au Burundi qui côtoie par sa famille l'atroce génocide rwandais. Un roman terrible qui résonne comme une confidence.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en plateau avec nous comme chaque semaine. Annick Dor est en Belgique à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine. Grégoire Courtois dirige la librairie Oblique à Auxerre en France. Jérémy Laniel représente le Canada dans la librairie Carcajou à Rosemère. Et en Suisse, on retrouve Dominique Bressoux de la librairie Une Petite Prose depuis Boudry. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
Ils sont en pleine forme. La rentrée s'est super bien passée. Grégoire est-il toujours aussi méchant ? Jérémy va-t-il encenser Laurent Godet ? Réponse au cours de cette émission Suspense. Bonjour Gaël Faye.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir. Vous publiez un livre d'une très grande intensité. Vous jouerez aussi un titre en acoustique tout à l'heure depuis nos studios, car vous êtes aussi et surtout un musicien et chanteur. Votre premier album, sorti en 2013, était magnifique. On commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote personnelle étonnante, racontée par l'un de nos invités. Je sais que vous êtes impatient, que vous avez préparé cette séquence. C'est vous qui avez l'honneur. Que voulez-vous transmettre, Gaël ?
Non, je voulais juste raconter une histoire qui m'était arrivée dans la musique. Je suis fan depuis très longtemps de Mulatu Astatke, qui est le père de l'Ethio Jazz. Et un jour qu'il était de passage à Paris, j'ai été contacté par son agent parce qu'il il a l'habitude, quand il arrive dans les villes, de rechercher un rappeur pour partager un titre avec lui. Donc on m'a appelé, j'étais très heureux et donc je suis allé dans cette salle, au Trianon, pour partager ce titre. Et après mon passage, il y a eu beaucoup d'applaudissements et du coup il m'a rappelé une deuxième fois. Une troisième fois et une quatrième fois
Fait tout le concert.
Et oui, et j'ai fait pratiquement tout le concert avec lui.
C'est un bel honneur.
Ouais. Et ouais. Et là, je l'ai rencontré à nouveau il y a quelques mois parce que je me produisais à Addis Abeba.
Alors, on va parler de votre livre, mais il faut absolument écouter Gaël Faye. Si vous avez manqué la sortie de l'album de Gaël Faye il y a 3 ans, il faut y aller parce que c'est vraiment un album génial. Voilà, vous jouerez un extrait tout à l'heure.
Oui.
Gaël Faye est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Laurent Godet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être fidèle à cette émission et à tout ce que nous portons. Comme Dany Laferrière la semaine dernière, vous êtes ici chez vous. Vous pouvez d'ailleurs intervenir quand vous le voulez. On va commencer
c'est
par vous.
C'est très gentil.
Hein, ça tombe bien.
Oui.
Parce que vous pouvez intervenir tout de suite. Vous publiez Écoutez nos défaites aux éditions Actes Sud. C'est le livre le plus élaboré et le plus intelligent de cette rentrée littéraire. En tout cas, c'est mon point de vue. On verra tout à l'heure si les libraires sont d'accord avec moi. C'est un grand voyage à travers le monde. Un voyage à travers le temps avec l'histoire de ceux qui ont mené des guerres. Et malgré leur victoire, ils ont tous connu la défaite. On ne gagne jamais une guerre.
C'est plus compliqué que ça. On gagne jamais dans la vie, en fait, je pense. Donc, même quand on a gagné une bataille, voire plusieurs batailles, voire même une guerre, à la fin, le temps, à moins de mourir sur le champ de bataille, le temps s'étire un peu. Et puis, autre chose commence, le temps du délitement, le temps de la fatigue du corps. Et donc, à la fin, je pense que, voilà, l'heure des bilans, c'est difficile d'être victorieux jusqu'au bout.
Dans votre livre, on croise de grandes figures comme l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié, Hannibal Barca de Carthage qui part à la conquête de Rome et le général Grant, illustre militaire de la guerre de sécession aux États-Unis. Ils ont tous un point commun, des victoires retentissantes suivies de chutes assez minables, personnellement.
Oui. Oui, absolument. Alors c'est étrange, mais c'est vrai que Haïlé Sélassié, pour le coup, est un exemple saisissant. Il est magnifique dans la défaite, avec ce très très beau discours à la Société des Nations, qui est encore aujourd'hui, je trouve, résonne de manière très forte. Et puis quand il retourne au pouvoir, il finit par reprendre les habits d'un petit tyran finalement assez quelconque. Donc c'est toujours intéressant. Effectivement, si on prend le général Grant uniquement à la fin de la guerre de la Sécession, on dit c'est lui qui a gagné, et objectivement c'est vrai. Après, il a fait deux mandats de président des États-Unis, ça s'est pas très bien passé, il finit un peu vieux, un peu fauché. Donc c'est là où tout d'un coup la notion de victoire se dissout un petit peu et où je pense que lui était aussi hanté par toutes ces vies qu'il a menées au combat, qu'il a obligé à mourir d'une certaine manière. Ça ne doit pas être très simple non plus.
Mais c'est vrai qu'Haïlé Sélassié prononce un discours mémorable à Genève en 1936. Ouais. Il annonce qu'on a abandonné son pays, mais que personne ne réagit face à ça. Ouais. Et si personne ne réagit, il alerte l'Europe. Il dit attention parce que ça va finalement vous rejoindre à un moment. Ouais. Et personne ne le croit, personne ne l'écoute vraiment. On est en 1936, il va y avoir la guerre évidemment 39-45. On va vite comprendre la force de Mussolini. Donc c'est un empereur qui a comme ça une stature et quand il revient dans son pays, quelques années plus tard, alors qu'il fuit l'Angleterre, hein, parce qu'on le savoir, hein, il quitte son pays, lui il fuit en Angleterre, il se retrouve à être à la tête de 27 Rolls alors que le pays crie famine, c'est abominable.
Oui c'est ça, c'est cette espèce de drôle de chose d'être à un certain temps de l'histoire un homme qui est important, parce qu'il a été important à ce moment-là, c'est son discours et le point d'appui à tout le mouvement des non-alignés, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose de vraiment important, cette idée que les grandes nations ont été d'une hypocrisie totale et qu'au fond l'idée de solidarité entre pays, elle ne vaut que quand les intérêts sont communs. Alors on a l'exemple inverse avec Hannibal qui... Enfin, c'est pas tout à fait inverse, mais c'est vrai que ça m'a intéressé de décliner aussi cette idée-là. Hannibal perd, mais bizarrement, c'est quand même lui que l'histoire a retenu.
On va revenir sur l'histoire d'Hannibal parce qu'il y a toute une histoire à raconter. C'est peut-être celui qu'on connaît le moins, hein, d'ailleurs, Hannibal, dans votre histoire. En tout cas, on connaît moins le parcours et pourtant, il y a une victoire incroyable. Une barbarie absolue. On va écouter la BO du roman. On vous a demandé quelle musique illustrerait le mieux votre livre, Laurent Godet, la bande originale de votre livre, en quelque sorte. Vous avez choisi Bob Marley. Alors moi, j'ai été très étonné, c'est presque naïf. Ça gâche presque le livre.
Non, pourquoi ? Bob Marley, c'est immense.
Non, mais c'est immense. Mais là, Bob Marley, Buffalo Soldier, en plus.
Oui.
Bon, allez, on écoute un extrait, vous nous expliquez. Hein.
D'accord. Allons-y.
Marley, Laurent Godet, c'est
le
choix.
Je vous vois consterné, Emmanuel.
Mais pas du tout, j'adore Bob Marley, ce titre, mais pourquoi il illustre votre roman ?
Pourquoi ? Il y a plusieurs petites choses. Il y a d'abord, cette chanson-là, Buffalo Soldier, c'est quand même l'histoire de ces Noirs américains qui se sont battus.
Voilà, ouais, ouais.
Et donc, on est tout près de la guerre de sécession, parce qu'il y a eu, dans la guerre de sécession, des régiments noirs. Puisqu'il faut quand même rappeler qu'un des enjeux de la guerre de sécession, c'est la suppression de l'esclavage. Et puis, il faisait aussi le lien avec Haïlé Sélassié et l'Éthiopie, à travers la Jamaïque, les Rastas et tout
c'est
ça.
Vrai.
Donc, ça me semblait cohérent par rapport
c'est vrai.
À tout ça. Et puis, une raison plus pulsionnelle, c'est, on l'entend là quand on entend ce début de morceau, c'est la voix de la révolte face au monde, à l'état du monde tel qu'il est. Il y a quelque chose chez Marley qui est d'une puissance rythmique et puis même politique, c'est-à-dire que sa voix a été et est encore, je trouve, une voix subversive, forte. Ça me plaît bien. Il y a dans le roman un personnage qui dit il ne faut pas que le monde nous vole les mots. Je pense que Bob Marley, les mots, il n'a pas laissé le monde les lui voler.
C'est Mahmoud Darwish que vous citez.
C'est une fausse phrase de Mahmoud Darwish.
Phrase. Mais en tout cas, c'est lui qui s'adresse à votre personnage. Alors j'ai cherché, effectivement, je ne l'ai pas trouvé.
Ben non.
C'est pas lui. C'est bien. En tout cas, c'est bien vu, ça aurait pu être lui. Bon, vous avez bien répondu, c'est bien.
C'est vrai ?
Oui, je suis content de vous et je retire ce que j'ai dit avant. Allez, on va voir du côté des libraires, comment ça s'est passé pour eux, la lecture. Canada, France ou Belgique ? Qu'est-ce que vous préférez, Laurent ?
Oh là là, non, vous me demandez de choisir, c'était terrible. Je vais en Belgique la semaine prochaine.
Eh ben allez, on va en Belgique. Allez, allons-y. En Belgique, Annick Dor, c'est à vous.
Voilà, donc pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Hein. C'est vrai que c'est un magnifique et grand roman. J'ai trouvé vraiment captivante cette alternance entre présent et passé, entre personnages historiques et personnages de fiction. Alors, vous nous montrez que finalement, une victoire militaire, c'est pas forcément synonyme de victoire intime. Mais heureusement, vous nous rappelez que les hommes sont capables de créer du beau et que l'archéologie est là pour transmettre cette mémoire, coûte que coûte. Et ça redonne quand même un petit peu espoir en l'être humain.
Bien, le méchant de la bande, c'est Grégoire Courtois. Je ne sais pas si les vacances vous ont adouci, Grégoire. Quel est votre avis ?
Non, mais je suis jamais méchant.
Allez-y.
Je suis toujours juste.
Ça commence mal, allez-y.
Non, mais moi je suis d'accord avec Annick, c'est vraiment un grand roman. Ça c'est évident pour cette rentrée. De toute façon, tout le monde ne s'y trompe pas dans cette histoire. Moi j'ai beaucoup aimé aussi cet effet mosaïque, en fait. Hein, c'est-à-dire la juxtaposition de tous ces destins, en fait. C'est très intelligent, très très bien fait. L'enchaînement donne lieu parfois à des moments vraiment d'anthologie. Le seul bémol, effectivement, moi qui m'a posé problème, c'est dans la figure de style qui revient souvent et qui est l'anaphore, en fait, c'est-à-dire vraiment de recommencer une phrase par le même mot. C'est une figure qui parfois moi, m'a sorti du roman parce que elle est vraiment très très répétitive. Et...
Ah bon?
Ouais,
moi,
vraiment.
J'ai pas remarqué du tout.
Ben, je sais que ça, on le remarque pas, mais je trouve que c'est pas seulement chez Laurent Godet. Et je sais que Laurent Godet n'est.
Ça, c'est fort.
C'est
fort.
Je sais que Laurent Godet ne fait pas ça tout le temps parce que je connais très bien ses autres romans. Et c'est là, dans ce roman en particulier, où ça m'a gêné. Et c'est aussi une tendance un petit peu actuelle. Et c'est aussi ça qui m'a posé problème.
D'accord. Vous êtes conscient de ça, vous, Laurent ? Les anaphores ?
J'assume totalement, en tout cas, le travail sur la répétition.
D'accord.
Après, c'est vrai qu'il faut être honnête. Je pense que chaque écrivain a des tics d'écriture et qu'une partie de notre travail à chaque manuscrit, c'est d'essayer de les traquer. On n'y arrive pas toujours. Moi, j'ai un peu du mal à mesurer si c'est le cas dans celui-là. Mais le fait que la langue avance par répétition pour essayer de se chauffer et d'atteindre quelque chose, ça fait partie de ce qui m'intéresse.
Jérémy Laniel, au Canada, vous n'êtes pas d'accord avec Grégoire, apparemment. Vous êtes emballé. Enfin, vous avez failli ne pas l'être.
Oui, mais je dois le dire, c'est ça. Je suis un fan quand même invétéré de l'œuvre de Laurent Godet, donc je vais me dédouaner de tout de suite. Mais pourtant, je suis entré dans celui-là, dans ce livre-là, un peu reculons. La trame narrative contemporaine m'allumait vraiment pas. Je préfère quand Laurent Godet embrasse l'histoire, la grande histoire. Eh bien, j'aurais encore dû lui faire confiance, hein, parce que je trouve que dans ce livre-là, il marque à merveille les affres du monde contemporain aux défaites qui jalonnent notre existence humaine. Ça crée un roman choral brillant. C'est fabuleux.
Fabuleux. Voilà, la grande histoire, il en est question, hein, si je peux me permettre, Jérémy, puisque on va prendre l'exemple, un autre exemple, celui d'Hannibal. Alors, vous mélangez un peu les personnages comme ça. Faut raconter que c'est un roman exigeant. Il y a deux personnages, contemporains. Assem, qui est un espion, hein, grosso modo. Et puis, il y a Mariam, qui est archéologue, qui vient d'Irak. D'ailleurs, on parlera de l'Irak avec Brigitte Findakli tout à l'heure. Et tous les deux, voilà, on suit leur parcours. Et en même temps, on a les histoires d'Hannibal, du général Grant, d'Élie Sélassié. Tout cela est mélangé. Comme si vous montriez en fait que c'est la même histoire, c'est la même violence et ce sont finalement les mêmes défaites pour le monde.
Oui, en tout cas, de jouer sur le système d'écho qu'il peut y avoir. Parfois, c'est pour souligner des différences aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de différences entre la manière dont on mène une guerre à l'époque d'Hannibal et aujourd'hui. Hein. Le Hassem Graieb, qui est le personnage central, effectivement, il est aussi dans ce questionnement. Quel sera le jour où il pourra dire « j'ai gagné » ? Il enchaîne des missions. Parfois, elles sont réussies, parfois, elles sont ratées. Mais il n'a jamais le sentiment que la guerre est terminée. Pour Hannibal, c'est très différent. Il sait qu'à un moment donné, il y aura un gagnant et un perdant, ce sera Carthage ou ce sera Rome.
Alors justement, Hannibal, donc il part à la conquête de Rome, il va écraser les Romains à Cannes, non pas dans les Alpes-Maritimes en France, mais dans les Pouilles. On nomme la ville d'ailleurs aujourd'hui Cannes della Battaglia, puisque c'est la ville de la grande bataille. 45 000 morts en une seule journée, c'est le plus grand massacre de l'histoire, et pourtant il était en infériorité numérique. Il est reconnu aujourd'hui comme étant le plus grand tacticien militaire. Il paraît même que l'on étudie encore, d'ailleurs, cette fameuse bataille dans les écoles militaires, parce qu'il arrive comme ça à ruiner l'armée romaine, et 45 000 morts en une journée, c'est abominable.
45 000 morts romains. Côté Hannibal, il y a, je crois, 6 000 morts.
C'est ça.
Alors qu'au démarrage de la bataille, il y a 2 Romains pour un Carthaginois. Donc c'est vraiment, oui, c'est encore étudié. C'est une bataille menée. C'est très étrange de dire ça, de prononcer ces mots-là quand on parle de 45 000 morts, voire même plus, 50 000 en tout. Mais avec une maestria et une espèce de vista de la bataille qui est de l'ordre du talent.
C'est vrai qu'on voit les schémas sur Internet, parce que vous pouvez les voir sur Internet. Il a une prise en tenaille, il a une cavalerie comme ça qu'il allonge sur une grande partie du front, et puis comme ça il prend tout le monde à rebrousse-poil.
Avec le risque énorme que sa ligne de front se brise, la fin immédiate, puisque à ce moment-là c'est une boucherie, mais pour lui. Et donc il fait ce pari-là. Je parlais de talent, je sais que ça fait un peu sursauter, mais c'est ce que j'ai vu, que ce soit avec Grant ou avec Hannibal. C'est une période où on fait la guerre et où les généraux, ceux qui conduisent les armées, sont sur le champ de bataille. Et tous les témoignages convergent que ces hommes-là, aussi différents soient-ils, avaient cette espèce de capacité, premièrement, de garder leur sang-froid, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et deuxièmement, de garder une lecture de ce qui se passe et de pouvoir, donc, du coup, réagir, influencer en fur et à mesure du climat, de comment avance la bataille. C'est un don. C'est bien ce qui est étrange avec Grant, d'ailleurs, c'est qu'il le sait dès le début, il n'est bon qu'à ça. Tout le reste dans la vie, il l'a raté. Oui, mais ça, il sait faire.
Et ils ont tous ce point commun avec cette phrase que vous écrivez à propos d'Hannibal, mais qui s'accorde avec tous les personnages de votre roman. Il est fou, mais tant mieux, car c'est la folie qui fera la légende.
Mais
tout est histoire de légende.
Pour Hannibal, oui, bien sûr, comme la traversée des Alpes, d'ailleurs, c'est de la folie, c'est de la folie totale.
Et que faut-il retenir, alors, pour terminer? Faut-il retenir les victoires, comme on nous les enseigne, ou faut-il retenir plutôt les défaites, pour montrer que finalement, quel que soit le conflit, quel que soit le combat, on va vers le pire.
Moi, je retiendrai cette phrase que prononce le général Sherman et qui dit que les victoires puent autant que les défaites. C'est-à-dire, c'est pas pour les ramener dos à dos, ça n'est pas égal. C'est bien que Grant ait gagné, parce que sinon il y aurait encore des esclaves aux États-Unis. Il y a un sens quand même dans cette victoire-là. Mais en même temps, concrètement, sur le champ de bataille, même quand on a gagné, quand on laisse derrière soi 30 000 morts, ça pue, ça fait tourner les oiseaux et c'est terrifiant. Ça, on l'oublie, c'est jamais marqué dans les livres d'histoire que les victoires puent.
Merci beaucoup Laurent Godet. Écoutez nos défaites est publié chez Actes Sud. C'est un roman magistral. Prenez le temps de lire ce livre, même s'il est exigeant. Vous devez avoir écouté nos défaites dans votre bibliothèque. Voilà. Et puis, comme on le dit dans cette émission, on vous rembourse si vous n'aimez pas ça. Laurent Godet vous rembourse. Allez, moi aussi. Allez, cette fois, moi aussi, parce que franchement, vous pouvez y aller. Bon, Laurent, vous restez bien sûr avec nous. Il y a une pièce de théâtre, Danse Morob, qui est parue aux éditions Actes Sud Papier. Vous savez qu'on soutient les pièces de théâtre écrites dans cette émission. Merci Laurent. Merci. Vous intervenez bien sûr quand vous voulez. À suivre Lewis Trondheim et Brigitte Findakli. On part en Irak avec le couple le plus célèbre de la BD. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Dis-moi un peu, qu'allons-nous faire pour nous protéger de l'hiver qui rôde, du bois, de la paille ou des briques? Le froid, j'ai les yeux qui me piquent, le loup souffle sur la plaine. Tes lèvres posées sur les miennes. J'ai trouvé le sourire. D'autres ont coulé sous les ponts de la Seine. Hey, we're beautiful. We're beautiful again. We're beautiful again.
La maison Tellier, Beautiful Again, sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde avec des libraires qui vont vous parler des livres dans toutes les catégories. Cette saison, vous le savez depuis la semaine dernière, petite nouveauté, les libraires présentent un coup de cœur ou un coup de gueule. On commence dans le rayon des romans contemporains avec Dominique Bressou. Coup de gueule ou coup de cœur, Dominique ?
Coup de gueule. Allons-y. Sur l'omniprésence dans les médias, même suisse, du prix Goncourt. Alors qu'il existe bien d'autres récompenses dans la francophonie. Par exemple, vous prenez le prix Robert Walser en Suisse. En 2016, il a été attribué à un récit d'une finesse d'écriture et d'une poésie telle que vous vous imaginerez marcher dans un jardin zen sous la neige. Lisez-le, c'est « Hiver à Sochaux » de Elisa Chua du Sapin aux éditions Zoé.
Et qui a reçu le prix, vous voyez, je m'en souviens plus, vous allez me gronder.
Robert Walser.
C'est pas dans le Goncourt du tout, c'est ça ?
Ah bah non.
Non. Laurent Godet a eu le Goncourt en 2004, Le Soleil d'Escorta. Vous vous souvenez,
absolument.
Laurent ?
Mais oui, oui, oui.
Et Gaël Faye est nommé pour le prix Goncourt, il est dans la première liste. Donc, Hiver à Sochaux aux éditions Zoé. Merci beaucoup Dominique. Dans la catégorie des livres pour la jeunesse, on file chez Grégoire Courtois en France. Le méchant a un coup de...
Bah oui, moi je suis pas si méchant.
Mais pas du tout.
C'est vraiment un album jeunesse que je conseille vraiment. C'est Angélique Villeneuve à l'écriture et Amélie Vidello aux illustrations. Un album superbe qui s'appelle Le Doudou des Bois, ce qui raconte l'histoire d'une petite fille qui perd son doudou dans les bois et qui va le rechercher la nuit qui suit, parce qu'elle n'arrive pas à dormir, évidemment.
Bah oui, sans le doudou. Ouais.
Bah évidemment, qu'on n'a pas de doudou, comme on voulait qu'on fasse.
Et ça a l'air sympa.
Elle va en chercher un. Non, mais c'est superbe.
Ah bah oui.
Surtout les illustrations, parce que c'est vrai que le texte d'Angélique Villeneuve est très beau, mais il est à la fois très modeste et très, très resserré, alors que les illustrations dans ce grand format prennent toute leur ampleur. On voit les goûts, on voit les odeurs, on voit tout ça dans la forêt. C'est vraiment sublime à proposer aux plus jeunes.
Le Doudou des Bois aux éditions Sarbacane. Merci beaucoup Grégoire.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Brigitte Findakli et Lewis Trondheim sont dans la librairie cette semaine. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Bonjour Lewis.
Bonjour Emmanuel.
Vous publiez le roman graphique de cette rentrée. Lewis, vous avez déjà fait cette émission tout seul. On vous connaît pour vos personnages, mi-hommes, mi-animaux, anthropomorphiques ou plutôt zoomorphiques. Hein, c'est plutôt ça.
C'est comme on veut. C'est juste une question de paresse. Je dessine des animaux parce que c'est plus simple. Sauf pour ce coup-ci, il fallait que je dessine des humains.
C'est ça. Oui, ça va être plus compliqué. Créateur des séries Donjon, Lapineau ou encore évidemment Ralph Azam, Brigitte, vous êtes coloriste, Le Retour à la Terre de Larsenet, Le Chat du Rabbin, certains albums de Lewis, eh bien les couleurs c'est vous. Dans Coquelicot d'Irak, vous racontez votre histoire, votre enfance en Irak, une enfance plutôt heureuse, hein, malgré les bouleversements politiques. On s'attend à quelque chose de dramatique et pas du tout.
Non, bien sûr, c'est aussi essentiellement ça que je voulais montrer, c'est que en fait... toutes les années que j'ai passées en Irak, donc mes 14 premières années, malgré les nombreux coups d'État et la surveillance constante, parce qu'ils étaient tous obsédés par l'espionnage et nous vivions normalement, mais comme la majorité des gens...
Et on le voit sur les photos de famille d'ailleurs, que vous reproduisez.
Oui.
Il y a des photos en noir et blanc, ça vous a aidé ça, Lewis Trondheim, pour dessiner les personnages, les photos ?
Pour la documentation des maisons, de ce qu'il y a à l'intérieur, oui. Pour l'extérieur, non, parce que comme on n'avait pas le droit de prendre des photos à l'époque, c'était totalement interdit à cause de l'espionnage, j'ai dû rechercher autrement comment étaient faites les rues à Mossoul et à Bagdad à cette époque.
Et Brigitte vous a raconté, non ?
Elle m'a raconté, elle m'a dit, c'est des petites rues, alors après, comment je fais?
Les trottoirs n'étaient pas très droits.
Oui, c'est ça. Et vous avez dû vous adapter, Lewis Trondheim, cette fois.
Absolument, oui.
C'est la première fois pour vous, ça?
Presque la première fois. Mais comme je suis quand même toujours très paresseux, j'ai continué à faire des choses très simples avec des personnages sans oreilles et sans doigts.
On dirait des petites marionnettes, d'ailleurs.
Voilà, c'est comme un petit dessin d'enfant. Ouais, c'est simple. En fait, je voulais que le lecteur puisse bien s'impliquer et s'investir dans le dessin sans trop lui montrer les choses. Si je dessinais trop réaliste, je pense que j'aurais gâché une partie de l'empathie du lecteur.
Avec le texte qui est très important. Alors, le livre est très bien construit, hein, Brigitte Findakli, parce qu'on suit votre histoire et puis il y a des petites scènes comme des interludes qui illustrent la vie en Irak. Par exemple, sur une page, sur une planche, vous décrivez certaines traditions. Les hommes qui font les courses, là-bas ce sont les hommes qui font les courses, ou bien la politesse à table. Quand on est invité chez quelqu'un, on refuse d'être resservi quand on vous propose.
Voilà, oui, ça c'est la moindre des politesses. Parce que si vous acceptez, ça prouve que vous êtes gourmand. Et donc, c'est mal poli. Ce sont des petites choses, il faut le savoir.
Et il faut attendre qu'on vous propose d'être resservi trois fois.
Il faut attendre qu'on insiste.
Voilà.
Voilà.
Là, bon. Alors c'est drôle parce que votre maman fait des gâteaux formidables.
Oui.
Et puis là, les gens, malgré les traditions, ils dépassent ça. Parce que quand on leur demande, vous voulez une part de gâteau, ils disent oui, oui.
Voilà, merci, parce que donc, ma mère est française, et donc elle a vécu 22 ans en Irak. Elle s'est habituée à vraiment plein de choses, mais ça... il n'en était pas question. Mon père avait beau lui expliquer au début, mais non, mais c'est dans la tradition. Elle dit, mais je comprends pas. S'ils ont envie d'en reprendre, qu'ils reprennent. Mais je vais pas répéter 3-4 fois. Très vite, tous les gens qui venaient chez nous, cette tradition-là disparaissait.
Alors, votre famille est généreuse, hein, parce que votre père est dentiste et il lui arrive de soigner gratuitement. Alors, du coup, il paye des impôts pour ses soins bénévoles, car régulièrement, il y a un observateur qui vient voir combien il y a de monde dans la salle d'attente.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à l'époque, maintenant je ne sais pas, mais à l'époque en tout cas, on ne faisait pas de déclaration d'impôt ni quoi que ce soit. Ça se passait comme vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'il y a une personne, donc du service fiscal, qui s'installe dans la salle d'attente du matin jusqu'au soir et qui compte le nombre de patients. À partir de là, il fait son calcul par rapport au prix d'une consultation, par rapport au nombre de jours.
Oui, il calcule les impôts en fonction
de
ça.
Voilà, et à partir de là, il dit, voilà, sur une année, mon père a gagné tant, donc il devait payer tant. Mais il tenait effectivement pas compte du fait que mon père ne faisait pas payer ni les gens qui n'avaient pas les moyens, il les faisait pas payer, les amis, il les faisait pas payer, la famille, il les faisait pas payer. Et comme par hasard, il avait beaucoup d'amis aussi.
Bon, il y a une instabilité politique, évidemment, que vous décrivez. Alors, c'est assez compliqué quand même, parce que il y a la censure. Et puis, quand vos parents parlent en français au téléphone, il y a toujours quelqu'un qui les interrompt, on ne sait pas d'où il vient, et qui leur dit, soit vous parlez en arabe, soit vous raccrochez. Donc, ils sont surveillés au téléphone. C'est assez complexe. Et puis, il y a ces militaires omniprésents. Et Lewis Trondheim, j'ai remarqué que vous aimez bien dessiner les petits militaires, avec le fusil pointé comme ça en l'air, comme des petits soldats en plastique. Vous jouiez aux petits soldats, vous, non?
Je jouais aux petits soldats, j'avais des billes, je mettais les soldats au bout du tapis, avec les billes à l'autre côté du tapis, j'essayais de les dégommer. En plus, c'était un peu fatigant, donc c'était trop facile, donc j'achetais des tanks, et j'interposais des tanks, et j'essayais de contourner les tanks. Donc voilà, non mais en fait, comme il y a eu plein de coups d'État, je me disais comment je vais pouvoir représenter cette scène-là sans être redondant systématiquement avec le texte. Et donc, j'ai fait une espèce de petit ballet avec les petits personnages qui sautillent avec leur mitraillette. C'est tout à fait ridicule. Même à côté, malgré tout, j'ai quand même fait des séquences un peu plus sanguinolentes où on se rend compte que c'est des vrais morts. Quoi.
On va donner la parole à la Suisse, si vous le voulez bien. Dominique Bressot a lu votre bande dessinée, roman graphique. Je ne sais pas comment vous le présenteriez, vous. Tiens,
c'est plutôt c'est une bande dessinée.
J'ai tendance à dire bande dessinée.
Avec les textes qui ne sont pas dans des bulles. Hein. C'est pour ça que je précise, parce qu'il y a le dessin en dessous et le texte au-dessus. Dominique Bressot, Coquelicot d'Irak, ça passe ou ça passe pas chez vous?
Ah oui, ça passe. Alors non seulement je l'ai lu, mais je l'ai relu pour mieux en saisir tous les détails. Parce que je trouve assez rare qu'on ressorte d'une BD en ayant l'impression d'être moins bête que quand on y est rentré. Mais là, c'est vraiment le cas. Parce que grâce à votre récit, je comprenais mieux comment la situation des femmes s'est inexorablement dégradée en Irak et pourquoi.
On apprend plein de choses dans cette bande dessinée. Évidemment, en 1972, votre père décide de partir parce que ça commence vraiment à bouger. C'est avant l'arrivée de Saddam Hussein. Il dit à votre mère, on reviendra quand l'Irak ira mieux. Sauf que
ils n'y retourneront jamais. Oui. Quand nous sommes partis, Saddam Hussein était vice-président de la République. Et il avait déjà une très très forte influence. Bon, mais on ne pensait pas une seule seconde que ça allait devenir... ce que c'est devenu. Mais voilà, donc, et c'est vrai que mon père, oui, pensait vraiment que retourner un jour en Irak, hein, ça, c'était, il en était convaincu.
Il y a des passages terribles hein, quand vous arrivez en France, Brigitte Findakli, avec ses dessins de Lewis Trondheim qui sont édifiants. Il va même dans le dessin, il est assez fort pour ça d'ailleurs, Lewis, hein, parce que l'air de rien, comme ça, il fait passer des messages, ne serait-ce que par le trait. Lorsque vous arrivez en fait au commissariat de police, on laisse croire à votre mère que, comme elle est mariée à un étranger, elle a perdu sa nationalité française. Et elle y croit, alors elle appelle le préfet. Enfin, ça va très loin, on va pas tout raconter, mais ça se résout évidemment. Enfin, c'est absolument terrible. Et à l'école, vous êtes entouré de racistes. Il y a même un professeur qui dit à la classe « Qui peut prétendre ici ne pas être raciste ?» Ça lui paraît évident ?
C'était pas non plus l'école publique, attention.
Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Cette école-là, c'était donc, j'étais en seconde, une école privée dans laquelle il y avait beaucoup de bourgeois et surtout beaucoup de fils de militaires. Mmh. Et en fait, si le professeur a posé cette question, c'est bien parce qu'il était à peu près sûr de la réponse, parce qu'ils étaient pratiquement tous racistes. Enfin, je dis pratiquement juste pour être... mais je pense qu'ils l'étaient tous.
Oui, parce que vos copains associent les Arabes à la religion musulmane. Ils ne comprennent pas qu'on puisse être arabe et chrétien.
Oui, mais quand ils ont su que moi, j'étais chrétienne, par exemple, bon, ils se sont dit, ah oui, bon, d'accord. Enfin, ils ne se sont pas posé plus de questions. Mais quand je leur demandais, mais dans ces cas-là, puisque vous êtes tous racistes, mais pourquoi vous me parlez ? Pourquoi ? Il me répondait, mais il y en avait plein qui me répondaient comme ça. Oui, mais toi, c'est pas pareil.
Ouais, comme le prof qui
et je
ça
n'ai jamais su, et comme le professeur, ouais. Voilà. Mais j'ai jamais su pourquoi je n'étais pas pareil. Alors, peut-être parce que j'avais pas d'accent.
Ouais.
Mais c'est tout, parce qu'autrement, je vois pas...
Tout simplement parce qu'ils te connaissaient, ils savaient comment tu vivais. Et puis, ils disaient, ah bah, finalement, c'est quelqu'un de gentil, donc c'est pas pareil.
Oui, c'est l'exception.
Mais pas pareil que les autres qu'on connaît pas, c'est tout.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, tiens, d'ailleurs, Lewis Trondheim, dans cette histoire ?
Je crois que c'est l'histoire avec le blé enrobé d'un insecticide qui était donné aux paysans. On leur a bien dit de bien le mettre en terre et pas de le manger. Pourtant, il y en a plein qui l'ont mangé.
Oui, il était enrobé d'une couleur rouge.
Absolument.
Pour protéger le blé des insectes.
Et donc, ils ont été malades. Ceux qui n'étaient pas malades, ils ont donné une partie quand même à leur bétail, qui est mort. Et le reste, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va le jeter dans la rivière. Et les poissons sont morts. Et pendant deux mois, les gens ont appris à manger du corned beef en boîte de conserve.
C'est comme ça qu'ils ont connu le corned beef,
oui. Oui, parce qu'avant, on n'en mangeait pas du tout. Enfin, c'est pas... Du coup, même les musulmans se sont retrouvés à manger du corned beef, parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix. Ça a duré deux mois, il n'y avait rien d'autre.
Voilà, plein d'histoires comme ça dans ce livre. On va terminer par un petit cadeau, Brigitte. Adolescente, vous écoutiez Michel Sardou avant de vous rendre compte de votre erreur et de passer à Georges Moustaki.
Bah, je vous remercie.
Georges Moustaki, qui était le parrain de la librairie francophone.
Ah, d'accord.
De métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 80. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent.
Vous chantiez Moustaki comme ça ?
Avec mes mains de
dans votre chambre.
Ah oui, j'ai passé des heures et des heures. Mais je l'ai rencontré un jour, Moustaki. Oui,
c'est
oui, il y a quelques années, parce qu'il avait fait une préface d'un des albums du Chat du Rabbin.
Ah oui, d'accord.
Et en fait, j'ai un peu honte, mais j'étais tellement intimidée que j'étais nulle avec lui, je ne savais pas quoi lui dire. J'étais très mal à l'aise, mais contente de l'avoir rencontré.
Et puis, tu t'es mariée avec moi, tu ne pouvais rien faire de toute façon.
Bon, on pense à lui, voilà, vous êtes dans l'émission qu'il a
parrainée. Merci de...
Ça a été le premier invité, on a même fait des pilotes avec lui avant de lancer l'émission il y a quelques années, on ne dit plus parce qu'on dit. Grégoire, on termine avec votre commentaire, vous avez adoré cette bande dessinée.
Ouais, j'ai trouvé ça super, c'est drôle, c'est passionnant. Mais bon, vous avez déjà presque tout évoqué, effectivement, mais ça fait vraiment partie des livres très très importants, je trouve. D'abord parce qu'on casse des préjugés, hein, on en a parlé, effectivement, des préjugés sur un pays dont on a l'impression, tout le monde a l'impression de le connaître. Hein. On le voit à la télé depuis les années 90 et tout le monde connaît l'Irak, sauf que pas du tout. Donc voilà, c'est ce qui est superbe et ça permet peut-être de montrer qu'un pays aussi, c'est pas monobloc, c'est pas une seule identité et qu'il y a plein d'identités dans un pays, en Irak, mais peut-être aussi en France.
Oh, mais j'en suis sûre, bien sûr.
Coquelicot d'Irak est publié aux éditions L'Association. Voilà, c'est un très bon livre, très réussi. On y apprend beaucoup de choses. Un vrai document témoignage à lire absolument. Merci beaucoup, Brigitte Findakli.
Merci
Lewis Trondheim d'être venu dans les médias. C'est rare chez vous. Ça va, on a été gentils à peu près.
Oui, même le monsieur gentil de la librairie d'Auxerre, il était
monsieur
gentil.
Monsieur méchant.
Oui. Non, gentil.
Maintenant, c'est le monsieur gentil. Il faut arrêter avec le monsieur méchant.
Rires. Et Lewis Tondheim a basculé. Maintenant, il adore les médias. Dans cette plus grande librairie du monde, on s'intéresse aux livres de poésie.
Non, d'abord, je vous fais un bisou.
Et ça y est, c'est les Teletubbies, hein, Lewis. Jérémy Laniel est au Canada. C'est un coup de cœur pour vous, je crois.
Un immense coup de cœur, Emmanuel. Martine Audet, Ma tête est forte de celle qui danse, est publié aux éditions du Norrois, accompagné de magnifiques dessins d'Élise Palardy. Martine Audet, c'est une poète qu'on connaît depuis longtemps, mais ici, là, elle loge à l'enseigne de la grâce littéraire, Emmanuel. C'est délectable. Elle, qu'on connaît par une concision, normalement, dans le vers, là, des vers très, très serrés, elle épouse la prose. C'est fabuleux dans un univers dans lequel on embarque. Elle conjugue le verbe exister et écrire comme peu ont été capables de le faire. C'est vraiment un incontournable de la rentrée poétique au Québec.
Très bien. Jérémy Laniel qui porte la poésie, vous avez raison, avec ce titre « Ma tête est forte de celle qui danse » aux éditions du Norrois. Merci Jérémy pour la catégorie des essais. Cap sur la Belgique. Annick Dor, coup de gueule ou coup de cœur ?
Ah, coup de cœur Emmanuel, pour le livre de Christian Laborde, « La cause des vaches ». Alors c'est un livre vraiment plein de poésie, mais aussi plein de fureur. Il dénonce l'élevage industriel intensif, qui est une catastrophe à tous les niveaux. C'est un enfer pour le monde animal, ça tue l'emploi, ça donne une viande complètement dénaturée. Donc il nous montre à quel point, avec les fermes-usines et les modes d'abattage actuels, notre société finalement tombe dans la plus infâme des déchéances. Alors moi je trouve que c'est vraiment un livre salutaire, qui a le mérite de nous ouvrir les yeux, avec des chiffres, des exemples très concrets, mais qui est aussi une ode à la beauté des vaches qui devraient manger de l'herbe et qui devraient regarder passer les trains au lieu de voir des néons au-dessus de leur tête.
Voilà, c'est engagé. Un coup de gueule finalement,
ouais.
Hein, un peu.
Un coup de gueule,
l'air de rien.
Ça, un peu, en fait.
La cause des vaches de Christian Laborde aux éditions du Rocher. La librairie francophone avec Laurent Godet, Lewis Trondheim, Brigitte Findakli et Gaël Faye. Gaël Faye, Petit Pays, c'est le titre de votre premier roman dont tout le monde commence à parler en France. Vous êtes donc sur la liste du Goncourt. C'est un livre très touchant, très bien écrit. Vous analysez avec singularité le génocide rwandais. Vous êtes né au Burundi, d'une mère rwandaise, d'un père français, comme votre personnage. Vous arrivez en France lorsque le génocide frappe cette région, comme dans le roman. C'est votre histoire ?
Oui, c'est mon histoire avec la liberté du roman. C'est-à-dire que j'ai traversé la même période politique, j'ai les mêmes origines que ce petit garçon. Mais par contre, ce qui va lui arriver au quotidien, je n'ai pas vécu cela. Et puis surtout, ça, moi, c'était un roman que j'ai voulu écrire pour retrouver les sensations de mon enfance que j'avais oubliées parce qu'on a vécu 2 ans dans la guerre et que l'image que je gardais du Burundi, c'était une image de guerre et je ressentais que mon enfance avait été bien plus riche que ça.
Alors c'est vrai que c'est une histoire très dure que vous parvenez à raconter avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'humanité. On va poursuivre cette conversation. Je vous propose de vous installer juste derrière dans ce studio. Vous allez interpréter un titre dans les conditions du direct. Vous êtes accompagné de Samuel Kamanzi à la guitare. Le titre, c'est Petit Pays, qui est aussi une chanson, hein, puisque sur votre album Pili Pili sur Croissant au beurre, sorti en 2013, il y avait ce titre. Et donc, pour illustrer votre passage dans la librairie francophone, vous l'interprétez. Le voici en version acoustique. C'est à vous, Gaël Faye.
Gaugu gatoi, gaugu kaniniya, hola funwani wapuye. Wanagowe ni wagoka gahugu gatoi gahugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs, remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs renfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis, avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény, on fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoi, gaugu kaniniya, wala funwani wafuye, wala gowe ni wagoka. Gaugu gatoi,
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé, coupable de voyir, quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes, et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve. Petit pays, dans l'ombre le diable continue ses manœuvres. Et tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'en canaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citément un seul de rêve qui soit allé jusqu'au dû.
Gahugu gatoi, gahugu kaniniya, wala funwani wapuye.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr.
Gaël Faye, Petit Pays, depuis nos studios en version acoustique sur ICI, Radio-Canada Première. Vous pouvez applaudir même si on n'est que quelques-uns ici en studio. RTBF, la première de la RTS et sur France Inter. Magnifique titre. Merci beaucoup Gaël.
Merci.
Merci infiniment.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Petite transition, 10 secondes seulement pour respirer pour vous. On va parler de ce roman absolument incroyable, Petit Pays, qui commence par un passage presque drôle. Quand on vous explique la différence entre les Tutsis et les Hutus, vous êtes enfant, enfin en tout cas votre personnage est enfant, et vous ne comprenez pas les différences au sein d'un même peuple qui a la même langue, le même pays, le même dieu. Et d'ailleurs, il y a un élève à l'école qui dit, en voyant Cyrano de Bergerac, bah lui avec son gros nez, c'est un Tutsi. On est perdu,
oui.
Évidemment.
Oui, on est perdu. Les adultes arrivent toujours à mettre des mots pour expliquer l'impensable et l'absurdité. Et lui, l'enfant, se rend bien compte que cette histoire n'a ni queue ni tête. Il y a une incompréhension entre lui et son père.
Alors quand éclate le génocide rwandais, que l'on incite à la radio la population à exterminer les Tutsis, c'est vrai ça, hein, ça s'est vraiment produit. Il y a des gens à la radio comme nous, là on est en train de parler de paix, on essaye en tout cas. Eh bien il y en a qui incitaient à la haine et qui disaient prenez les armes, prenez les machettes et allez tuer votre voisin. Et votre personnage est sur le chemin d'un mariage, vous avez vécu ce moment-là vous-même ou non ?
Non,
pas du tout.
Non, je ne l'ai pas vécu, moi j'ai connu le Rwanda après le génocide. Oui, oui. Et d'ailleurs, le mot génocide, je l'ai compris bien des années plus tard, pendant que je vivais au Burundi et que le génocide avait lieu au Rwanda d'à côté, donc le pays de ma mère. On parlait des événements. J'ai compris bien des années après qu'entre guerre, événements et génocide, il y avait des grandes différences et que ce qui s'était passé au Rwanda était différent de ce qui s'était passé au Burundi.
Alors cette mère, elle va partir rejoindre sa famille au Rwanda parce que quand arrivent ces événements-là, évidemment, elle est très inquiète. Il y a sa sœur, il y a ses neveux. Elle va les chercher, elle va errer dans la rue comme ça au péril de sa vie et elle va trouver ses enfants, elle va trouver ses neveux dans une mare de sang.
Oui, la mère représente pour moi l'identité des rescapés aujourd'hui, des rescapés rwandais, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont arrêté de vivre en 94. Donc cette mère-là, elle a, elle a vu ce qu'un être humain ne devrait jamais voir. Elle a vécu ce qu'elle n'aurait pas dû vivre et ce qu'aucun être humain ne devrait jamais vivre.
En fait, ils ont arrêté de vivre parce qu'il y a eu un des auteurs qui sont venus ici, dont Scholastique Mukasonga, qui en parle très bien. Ils ont arrêté de vivre parce que tout simplement, ce qu'ils ont vu, c'est insoutenable. Et jamais personne ne pourra leur faire oublier ça.
Oui, et surtout que le génocide... c'est toujours la question du pourquoi, il n'y a pas de réponse. Mmh. On ne peut pas expliquer comment un voisin, quelqu'un qu'on connaissait, quelqu'un même qu'on a élevé, a pu prendre un jour une machette et nous découper en morceaux. On ne peut pas l'expliquer.
Il y a Gabriel. Alors le personnage s'appelle Gabriel. Je suppose qu'en dehors du fait que c'est un joli prénom, il y a un symbole avec l'ange Gabriel, ouais, hein, voilà, qui va écrire à son cousin Christian. Il y a une très belle lettre vers la fin du livre. On va écouter le son du monde de la semaine. C'est une séquence Gaël Faye. Le principe, une musique habillée d'une voix. La voix d'aujourd'hui va lire un extrait de Petit Pays. C'est une surprise. Et celle qui a accepté, c'est Brigitte Findakli, qui est juste à côté de vous, qui va lire donc une partie de cette lettre de Gabriel à son cousin Christian sur la musique de la diva rwandaise Cécile Caillebois.
J'ai tardé à t'écrire. J'étais trop occupée ces temps-ci à rester un enfant. Les copains m'inquiètent, s'éloignent de moi chaque jour un peu plus, se chamaillent pour des histoires d'adultes, s'inventent des ennemis et des raisons de se battre. Je comprends mieux pourquoi mon père nous interdisait, à Anna et à moi, de nous mêler de politique. Il a l'air fatigué, papa. Je le trouve absent, distant. Il s'est forgé une épaisse cuirasse de fer pour que la méchanceté ricoche sur lui. Alors qu'au fond, je le sais aussi tendre que la pulpe d'une goyave bien mûre. Maman n'est jamais revenue de chez toi. Elle a laissé son âme dans ton jardin. Elle s'est fissuré le cœur. Elle est devenue folle, comme le monde qui t'a emporté. J'ai tardé à t'écrire. J'écoutais un florilège de voix me dire tant de choses. Ma radio disait que l'équipe du Nigeria, celle que tu soutenais, a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Mon arrière-grand-mère disait que les gens qu'on aime ne meurent pas tant qu'on continue de penser à eux.
Un extrait du roman de Gaël Faye, Petit Pays, lu par Brigitte Findakli, sur la musique de Cécile Caillebois. Ça a l'air très ému, hein, Gaël Faye.
Oui, très ému. Hein.
Compliqué, là.
Ouais, c'est vraiment... Je n'ai pas encore lu votre livre, mais c'est vraiment... En tout cas, cet extrait m'a donné envie et ça m'a beaucoup touchée parce que, finalement, ce que je raconte dans Coquicodira, il y a des choses, c'est vraiment...
Ça résonne,
oui. Ah oui, énormément.
C'est pour ça qu'on vous a demandé.
Lewis Trondheim. Je pense que je ne vais pas pouvoir le lire parce que je vais pleurer. Ouais.
Oui.
Bon, je ne vais pas pouvoir enchaîner, moi, donc on va donner la parole au libraire. Ça va être plus simple. Dominique Bressoux, en Suisse.
Moi, j'ai lu ce roman d'une traite, capturé même par le récit de l'enfance de Gabriel. L'impasse dans laquelle vit ce garçon est très symbolique des choix d'une vie. Et il parvient à sortir de lui-même et part à la découverte d'autres mondes. Et c'est aussi ce que vous permettez à nous autres lecteurs. Et je pense en fait que vous méritez bien mieux qu'un prix d'une grande enseigne que je ne nommerai pas. Si le prix de la librairie francophone existait, je voterais pour vous l'attribuer.
Alors moi, Laurent Godet, je suis un peu embêté parce que je suis à la fois pour et en même temps, il y a d'autres candidats. Mais c'est vrai que vous avez eu le prix d'un grand magasin. On va pas le citer parce que c'est pas une librairie indépendante et qu'il faut acheter les livres dans les librairies indépendantes. On va se faire des amis. Bon, oui, mais voilà, un commentaire de Dominique Bressoux. La voix du Canada, c'est Jérémy Laniel.
Oui, et sur ce bouquin-là, je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un bon rappeur qui écrit un mauvais roman. Donc, il va sans dire que le terrain semblait miné d'avance pour ce premier bouquin de Gaël Faye, qui parvient pourtant à surprendre, toucher, surtout à bouleverser, avec un livre que j'ai trouvé un peu à mi-chemin là, entre L'énigme du retour de Dany Laferrière et Un dimanche à Kigali de Gilles Courtemanche. Bref, c'est juste, c'est sans larmoiement. Faye parvient à tisser les frontières d'un récit personnel sans s'en mêler dans la grande histoire. C'est un écrivain, je crois, fort prometteur qui va devoir maintenant transcender le personnel pour marier la fiction.
Annick Dor en Belgique, qu'en pensez-vous?
Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce premier roman. Je trouve qu'il est maîtrisé, lumineux, émouvant.
Et c'est vraiment, je trouve, un bel hymne à l'innocence perdue, finalement, à cette candeur de la prime jeunesse où tout semble immuable. Et j'ai aussi trouvé très réussi la manière dont sont comptés justement le génocide rwandais et puis toute cette montée des haines aussi au Burundi. Voilà, donc un roman poignant qui pose aussi toute la question, évidemment, de la possibilité ou non d'une reconstruction après avoir vécu de telles horreurs.
Voilà, Gaël Faye, l'avis de nos libraires.
Ben, merci à tous.
Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Burundi, puisque l'action se situe au Burundi, et puis on ne le sait pas trop, ça. Enfin, en tout cas, on le sait moins par rapport au génocide de Rwandais. Mais il y a eu beaucoup de violence au Burundi avant le génocide au Rwanda. Et beaucoup ont fui, justement, le pays. Des Rwandais ensuite ont fui. Enfin, il y a comme ça tout un croisement de populations. Et à chaque fois, vous apercevez, vous, en écrivant ce livre, sans doute, qu'il y a le rejet, la pauvreté, la nostalgie du pays, les problèmes d'exilés partout, avec les destructions, les pillages, les tueries, ça tourne en boucle.
Oui, c'est un peu... C'est la terre des volcans, tout paraît très calme, et puis en fait, il y a des forces comme ça, qui sont liées à plein de facteurs, mais qui font qu'en fait, la région est bouillonnante et que ça termine souvent, malheureusement, dans des bains de sang. Mmh.
Depuis les années 60, d'ailleurs. Hein.
Exactement.
Il se passe des choses.
Ouais. C'est une région où il faut rester attentif. Et aujourd'hui, par exemple, je suis très inquiet pour ce qui se passe actuellement au Burundi. Mmh. Depuis un an, le pays traverse une crise politique très profonde, avec des réminiscences d'idéologie génocidaire. Il faut vraiment faire attention à ce qui peut se passer dans ce pays.
Gaël Faye, vous écrivez « Je pensais être exilé de mon pays. En revenant sur les traces de mon passé, j'ai compris que je l'étais de mon enfance, ce qui paraît bien plus cruel encore. »
Oui.
Pourquoi plus cruel ?
Parce que le pays est toujours là, l'enfance ne le sera plus jamais.
On ne peut pas rattraper les choses,
c'est ça ? Non, on ne peut pas du tout rattraper.
Alors que l'exil, c'est possible ?
Parfois. Je veux dire, physiquement, le pays est toujours là. L'enfance ne l'est plus. Et puis, c'est ce qu'on partage aussi, chaque adulte, à la même expérience. On est tous exilés de notre enfance.
Et puis, il y a les livres, la lecture qui sauve. Si vous lisez ce livre, et vous allez lire ce livre, vous qui nous écoutez, vous verrez que les livres sont une grande bibliothèque. Il est question d'une grande bibliothèque à un moment. Et c'est le moyen de s'échapper aussi. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Gaël Faye. Merci pour cette prouesse, parce que ce livre, vraiment, c'était compliqué. C'est compliqué d'aborder ce sujet, on l'attendait, on y entrait, comme dit parfois Jérémy, un peu avec recul, et en fait c'est formidable, félicitations. Petit Merci. Pays est paru aux éditions Grasset. Merci beaucoup, merci Laurent Godet, j'ai oublié votre prénom, qu'est-ce qui se passe ?
Merci à vous.
On en a trop fait sur vous. Laurent Godet, Brigitte Findakli, Lewis Trondheim, merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Avant de conclure, voici une découverte musicale francophone avec le Québécois Louis-Jean Cormier et un extrait de son album.
Je commence par me perdre la tête comme un tourne-disque. C'est beaucoup mieux que mon arbitre et tellement moins triste.
Si tu reviens, un extrait de l'album de Louis-Jean Cormier que vous pouvez retrouver sur Internet, sur les plateformes légales de téléchargement et d'écoute en ligne. C'est la fin de cette édition. Toutes les infos sur l'émission, c'est sur la librairie francophone.com et je vous retrouve sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Pauline Laverdure. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France, Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, le Comorien Ali Zamir, le Québécois Daniel Grenier et retour sur l'intime festival à Namur avec des rencontres inédites. Bonne semaine à vous, salut.